Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir Babette.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
C'est le mot qui fait la une de tous les journaux aujourd'hui et peut-être encore des semaines à venir. L'inflation, les prix augmentent de façon spectaculaire depuis un an, ça devrait se poursuivre. La question c'est jusqu'où?
On en parle avec Dominique Schelcher, le PDG du groupe Système U. Mohamed, votre story ce soir.
Alors, si vous comptez aller en vacances cet été à l'étranger, vérifiez bien la date d'expiration de votre passeport et de votre carte d'identité. Les délais pour refaire son titre d'identité ont explosé en France, en passant de 12 jours à 65 jours. Le gouvernement a décidé de mettre en place un plan d'urgence. Je vous explique tout ce soir.
Donc peut-être des bonnes nouvelles malgré tout.
On l'espère.
Patrick, votre édito ce soir.
Je vais vous parler du Covid. Vous savez que plusieurs centaines de millions de Chinois sont confinés. En France, zéro. Et pourtant, il y a plus de morts en France qu'en Chine.
On en parle avec Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, membre du Conseil scientifique. Bonsoir Arnaud Fontanet.
Bonsoir.
Merci de votre présence ce soir. Mathieu dans le 5 sur 5.
La France insoumise et le PS se mettent d'accord. Mais c'est qui le PS? Bernard Cazeneuve s'en va, François Hollande récuse, Stéphane Le Foll, Jean-Christophe Cambadélis, Jean-Marc Ayrault, personne n'est content. On va en parler dans le 5 sur 5.
Vous n'avez pas trouvé un socialiste content?
Si, si, y en a.
Ah, quand même. On voit ça dans le 5 sur 5. Pierre, dans votre œil.
Je vous présenterai le premier roman de Nick Kent, un critique rock de légende, une sorte de Madame de Sévigné du punk ou de La Bruyère des Beatles et des Stones. Il sera avec nous tout à l'heure.
Et on soumettra cet œil très punk à l'artiste français tout simplement le plus écouté dans le monde. DJ Snake est notre invité exceptionnel ce soir à partir de 20h. On va vous le faire découvrir si vous ne le connaissez pas. En tout cas, forcément, vous avez forcément entendu l'un de ses tubes. On est très heureux de l'accueillir ici pour la première fois. Ah, c'est à vous, autour d'un dîner marseillais ce soir. Camille Gandolfo, chef du restaurant Les Bords de Mer à Marseille. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Chère Camille. Votre premier menu ce soir.
Bonsoir, aujourd'hui, ce soir, je vais mettre à l'honneur l'artichaut. Artichaut poivrade avec de la brousse du Rove et rehaussé avec un peu de poutargue.
Eh bien, on est très heureux de mettre l'artichaut à l'honneur ce soir dans C'est à vous. Merci beaucoup. Merci. Camille, à tout à l'heure. Tout de suite, l'édito de Patrick. Face au Covid, la Chine a basculé dans une sorte de délire totalitaire.
Voilà, exactement. Jeudi dernier, alerte générale à Canton, la troisième ville du pays. Les autorités ont fait tester un tiers de la population, 6 millions de personnes. Elles ont stoppé le trafic aérien, plusieurs centaines de vols annulés, après un cas de Covid. Même pas un cas d'ailleurs, mais le résultat anormal d'un test réalisé à l'aéroport. Voilà la politique zéro Covid poussée jusqu'à l'absurde. Politique qui frappe de restrictions environ un quart du pays, 350 millions d'habitants, qui est en train de gagner Pékin, où le confinement vient d'être décrété dans plusieurs quartiers avec une soixantaine de stations de métro fermées ce matin, et qui continue pour les 25 millions d'habitants de Shanghai, enfermés à domicile depuis la fin mars, ou bien arrachés de chez eux par la police quand ils sont positifs au Covid.
核酸检测阳性咱们就去方舱的。不是，我今天刚刚复测了结果还没出来啊。你不跟踪你，我这边已经接到结果，你是你要阳性了。来来来，太好了太好了，wonderful。走呀，走呀，走呀走呀走。
Je vais appeler la police, c'est nous la police. Cette femme sera amenée de force dans un centre de quarantaine collective, comme les autorités en ont ouvert à tour de bras, sans hygiène, sans soins ni médicaments, et paraît-il avec la lumière allumée la nuit. Centre où des cas négatifs sont aussi internés, parfois à des centaines de kilomètres de chez eux, simplement parce que leurs voisins ont été contaminés, parce que l'immeuble peut être un foyer de contamination. Les autres en sont réduits à tourner en rond dans leurs appartements, dans une mégapole en manque de livreurs et donc de nourriture.
Cela
fait un mois qu'on est enfermé. Je n'ai même plus d'œufs, même plus de produits essentiels, comme du riz ou de l'huile. Notre ville était autrefois surpeuplée. Maintenant, elle est vide. On ne peut s'empêcher de se demander comment les gens parviennent à survivre.
Des plaintes, des concerts de casseroles ou des manifestations dont les traces sur Internet sont aussitôt effacées par la censure chinoise. Les spécialistes et historiens affirment que le pays n'a pas connu un tel niveau de répression depuis la révolution culturelle des années 60.
Pourquoi une politique aussi brutale?
Alors médicalement, c'est un triomphe. 5000 morts officielles depuis le début de la pandémie, il y a deux ans. 5000 officielles quand les États-Unis vont bientôt atteindre le million de morts. En réalité, le bilan est forcément plus élevé compte tenu du nombre de contaminations. La campagne vaccinale est un échec. Les personnes âgées sont trop peu vaccinées. Et le vaccin national, le Sinovac, celui dont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon réclamaient l'importation l'an dernier, le Sinovac semble moins efficace que les produits à ARN messager que la Chine a refusé. Mais Xi Jinping ne veut pas se déjuger, il l'a répété il y a trois semaines, la politique de zéro Covid nous mènera à la victoire et lui à sa réélection à la fin de l'année pour un troisième mandat. C'est comme ça que ce zéro Covid est devenu une sorte de religion d'État. Les bureaucrates et les volontaires du Parti communiste qui risquent le limogeage à chaque apparition de foyer épidémique ont l'obligation de faire du chiffre, ou plutôt de faire du zéro, zéro Covid, quoi qu'il en coûte sur le plan économique, social et humain.
Et la pandémie en France, où en est-elle?
Ah oui, vous avez remarqué comme le Covid a complètement disparu du débat public depuis la levée des restrictions à la mi-mars. Pourtant, le virus continue de tuer plus de 100 personnes chaque jour, bien plus qu'à Shanghai, 112 en moyenne à l'hôpital sur la semaine écoulée, davantage que lors de la quatrième vague à la fin de l'été dernier. Et il y a encore 23 000 malades hospitalisés, dont 1500 en soins critiques, 1400 nouvelles admissions par jour. Certes, toutes les courbes sont à la baisse depuis quelques jours, quelques semaines, mais y compris celle des vaccinations, au point mort aujourd'hui, pour les rappels. Le Covid a quitté les conversations, mais pas la réalité des hôpitaux.
C'est ce que vous constatez, Arnaud Fontanet. On ne parle plus du Covid, mais il continue à tuer en France.
Alors, le Covid continue à tuer. Maintenant, les nouvelles sont quand même bonnes sur le front de l'épidémie, puisque l'on voit, on est passé hier pour la première fois en dessous des 50 000 cas par jour.
Sans doute sous-évalué, alors, parce que les gens sont moins testés.
Les gens sont effectivement moins testés, mais comme ces chiffres se retrouvent aussi sur les hospitalisations qui sont en baisse, donc oui. Le nombre d'admissions est en baisse à l'hôpital, en soins critiques, le nombre d'essais est aussi en baisse. Là, en revanche, on est sur des chiffres beaucoup plus robustes, qui ne sont pas dépendants du dépistage. Et c'est vrai qu'on a passé finalement ce pic de BA.2, hein, qui était le deuxième sous-variant d'Omicron qui nous a touchés. Donc pour BA.1, c'était à la mi-janvier. Là, c'était dans les dernières semaines de mars, d'avril, pardon. Et on est en train maintenant de descendre, avec quand même la perspective, avec le retour des beaux jours, d'une accalmie sur le front de l'épidémie en France.
Accalmie, mais pas de disparition. Vous vous préparez déjà à la prochaine vague, qui arrivera peut-être sans doute avant l'automne prochain.
Alors, il est très difficile de savoir quand est-ce qu'on aura un redémarrage. Il y a, comme je vous le disais, il y a une immunité populationnelle, mais qui est transitoire, qui est le fait de nos infections cumulées, des vaccinations qu'on a eues, qui nous protège actuellement, qui explique pourquoi la vague BA.2 est maintenant en train de diminuer. Après, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de notre dernière injection ou dernière infection, on redevient à nouveau vulnérable. Maintenant, comme je vous le disais, avec le retour des beaux jours, qui a quand même un impact sur la circulation du virus, on peut espérer passer un mois de mai jusqu'à août avec une situation contenue. On ne peut pas complètement éliminer le retour d'un nouveau variant. Il y a actuellement en Afrique du Sud le sous-variant BA.4, BA.5, qui est de la même famille Omicron, qui est en train de redémarrer. Eux, ils rentrent en hiver. Donc, la situation n'est pas complètement stable. Maintenant, ce sous-variant d'Afrique du Sud, il redémarre pas aussi vite que les prédécesseurs, et puis il s'accompagne pas non plus de formes cliniques trop sévères, parce que en Afrique du Sud comme chez nous, il y a eu tellement d'infections ou de vaccinations cumulées qu'il y a une protection populationnelle qui fait qu'on est quand même moins à risque de formes graves.
Protection populationnelle transitoire, avez-vous bien souligné. Ça veut dire qu'il faut quand même une dose de rappel pour les plus de 60 ans, c'est indispensable. Et il faut continuer à garder le masque dans les transports en commun, par exemple.
Alors, sur la dose de rappel, ce qui est clair, c'est que les données israéliennes nous montrent qu'effectivement, pour les plus de 60 ans, elles divisent par 4 votre risque d'hospitalisation. Donc, elle a un vrai effet sur les formes sévères. Il n'y a pas plus d'effet indésirable après cette quatrième dose qu'après une troisième dose. Il n'y a pas d'épuisement de la réponse immunitaire quand vous répétez les injections. Donc, il n'y a pas de raison de se refuser cette quatrième dose. Maintenant, il y a une vraie lassitude. On voit très bien que cette quatrième dose ne prend pas. Je crois que les chiffres sont de 3-4% pour les plus de 60 ans, de 12-13% pour les plus de 80 ans. C'est vrai qu'avec la baisse de la vague BA.2, les gens se disent finalement, c'est peut-être pas la peine de me vacciner maintenant. Ce qui est... je repense en revanche quasi certain, c'est qu'il y aura une proposition forte d'une dose supplémentaire, celle-là juste avant le démarrage de l'automne, puisqu'on sait qu'il va y avoir une reprise épidémique et qui concernera la population des plus de 60 ans. Est-ce que ça ira au-delà, c'est-à-dire les plus jeunes? On ne le sait pas encore, ça dépendra vraiment de la situation épidémique à ce moment-là.
Mais ça pourrait être une proposition faite à l'ensemble de la population majeure de se faire vacciner?
Ça pourrait, si... on verra comment où on en est de l'épidémie, des variants, de leur circulation. Chez les plus de 60 ans, je pense que là, il y a vraiment un rationnel pour la proposer.
Et le masque, on le garde dans les transports en commun?
Alors le masque, on le garde dans les transports en commun. Vous voyez aujourd'hui sans masque. C'est vrai que je fais un peu la part des choses maintenant. Quand je suis dans des réunions professionnelles, je porte un masque, ça ne me gêne pas. Dans les transports en commun, évidemment, je porte le masque. Maintenant, voilà, on est sur un plateau, une bonne ventilation, aérée à distance... Et je crois que c'est un petit peu comme ça qu'on va moduler notre mode de vie, et puis c'est à chacun de choisir. Il faut garder en tête qu'il y a des personnes qui devront garder le masque, celles qui sont très fragiles, des personnes avec déficit immunitaire sévère, ou si vous avez dans votre entourage proche quelqu'un qui a cette vulnérabilité, vous portez un masque pour la protéger. Donc on verra des gens porter des masques, d'autres pas, et ça, il faut l'accepter, ça fait partie de notre quotidien.
Pour revenir à la situation en Chine, cette stratégie zéro Covid poussée jusqu'à l'absurde, c'est votre sentiment également quand on voit les images là de...
Ce qui est absurde
pour, hallucinante
la... Ce qui est absurde
qui
pour la Chine, c'est qu'ils ont réussi à maintenir cette stratégie zéro Covid depuis le début de la pandémie et avec succès, mais avec, vous l'avez vu, des moyens de...
De police.
Contraintes de police qui sont quand même extrêmement fortes, mais ils ont réussi à la maintenir avec succès, sans pour autant vacciner de façon efficace leur population. Et c'est ça l'absurdité. Il y a d'autres pays qui avaient adopté la stratégie zéro Covid, plus facile parce que c'était des îles, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est l'Australie, c'est Taïwan, mais ils ont vacciné avec des vaccins ARN messagers, ils ont bien couvert la population des plus de 60 ans, et quand en Nouvelle-Zélande, Omicron est arrivé, ils n'ont pas pu le contenir parce qu'il est quand même beaucoup plus transmissible. Il y a eu une montée des cas, mais il n'y a pas eu d'impact sur l'hôpital. Le problème de la Chine aujourd'hui, c'est qu'ils sont prisonniers de leur stratégie zéro Covid avec une population mal vaccinée. J'entends par là que les plus de 80 ans notamment, mais les plus de 60 ans plus généralement, n'ont pas des taux de couverture suffisants. Et puis aussi que le vaccin inactivé qu'ils ont utilisé, Sinovac, est moins efficace que les vaccins ARN messagers. Et donc maintenant, s'ils lèvent les mesures, Omicron démarre et il va se passer en Chine ce qui s'est passé à Hong Kong qui était dans la même situation, où en mars 2022... Hong Kong a connu des taux de mortalité qui sont l'équivalent de ce qu'on a eu dans les capitales européennes en mars 2020. Donc, et c'est ce qui menace la Chine actuellement.
Avec des hôpitaux totalement débordés,
complètement débordés.
Un manque de lits de soins intensifs et pas assez de médecins.
Voilà, donc et alors pour ce qui est de la Chine, aujourd'hui, il y a un autre facteur qui leur complique la vie, c'est qu'ils ont, par exemple, deux fois moins de lits de soins intensifs qu'on en a en France. Donc si là, ils relâchent, et ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec Shanghai, parce qu'ils ont réussi, avec ce confinement extrêmement strict, à faire rebaisser le nombre de cas, mais ils sont encore à des dizaines de milliers de cas. Ça peut redémarrer dès qu'ils vont relâcher. Ils sont coincés. Tant qu'ils n'auront pas vacciné, alors Sinovac, si vous rajoutez une troisième, voire une quatrième dose, vous arriverez à avoir un effet sur les formes graves. Mais leur stratégie aujourd'hui, c'est pendant ce temps de vacciner effectivement, de développer aussi les antiviraux. Vous savez qu'il y a le Paxlovid, qui est un traitement qui peut vous protéger contre les formes graves si vous êtes vulnérable. Ils ont une formule chinoise qu'ils veulent développer en parallèle. Ils importent aussi du Paxlovid. Mais tout ça va prendre des mois. Et je ne sais pas comment ils vont pouvoir tenir, parce que dès qu'ils vont relâcher Shanghai, avec un variant aussi contagieux qu'Omicron, ça va redémarrer. Ils vont être dans la même situation au Pékin. Ils sont en situation extrêmement difficile par rapport à leur population.
Donc, Patrick a montré, et vous venez de l'évoquer, l'état de la population ou ce qu'elle subit, ce qu'elle doit subir. Pour les étrangers installés en Chine, c'est une autre histoire. Beaucoup essaient de se sauver. La Chambre européenne de commerce établie à Pékin estime que 50% des expatriés européens ont quitté le pays depuis le début de cette crise sanitaire. C'est le cas de cet entrepreneur français qui a été interrogé et suivi par France 2.
Basile Demeure, expatrié depuis 10 ans, a son billet retour pour Paris.
Et départ depuis 5 minutes et déjà premier contrôle.
Seuls quelques véhicules autorisés peuvent circuler. Coût du trajet, 200 euros, c'est 10 fois plus qu'en temps normal. L'aéroport est désert, deux vols affichés. Pour ce Français, c'est le soulagement.
C'est le fait de naviguer à vue. On se dit, bon, là ça fait un mois, ok, c'est long, on travaille depuis la maison. Mais combien de temps ça va durer ? Donc, ça a été vraiment à Paris de me dire je partirai maintenant parce que dans peut-être un, deux mois, la situation ne changera pas.
Je m'apprêtais à vous poser la question, est-ce que ça va durer encore longtemps ? Si on écoute Patrick, ça va durer jusqu'au Congrès, oui. En gros.
Au-delà même.
Oui. Au-delà.
Je pense qu'ils ont, pour arriver à des taux de couverture vaccinale qui les protégeraient, pour arriver à avoir ces antiviraux dont ils ont besoin... il leur faut plusieurs mois. Et donc, il y a effectivement une question politique que vous avez déjà mentionnée dans votre éditorial sur la reconduction de Xi Jinping. Mais là, vraiment, ils sont dans une situation très, très, très difficile. Et on a vu les souffrances de la population. Je ne sais pas comment ça va continuer. Enfin, la population va tenir. En tout cas, bon... il faut vraiment qu'ils y aillent sur le vaccin.
Et puis avec une économie à l'arrêt, enfin, c'est un problème. Il y a plusieurs centaines de... Shanghai, c'est la plus première ville du pays, mais c'est aussi le premier port du pays. Il y a plusieurs centaines de bateaux en attente dans le port de Shanghai qui ne peuvent pas être déchargés ou livrés.
Donc plusieurs mois encore dans cette situation, ça paraît totalement intenable.
Je pense que ça, juste un point, ça illustre quand même bien... Enfin, on a beaucoup souffert en France des deux années qui viennent de s'écouler, mais on devrait quand même réaliser, quand on voit ce qui s'est passé avec un variant qu'on dit aussi bénin qu'Omicron, quand on voit ce qui s'est passé à Hong Kong, on devra réaliser quand même qu'on a parcouru beaucoup de chemin et que c'est grâce à la vaccination finalement qu'on a pu traverser cette vague d'Omicron sans trop de difficultés en France.
Oui, mais si le pire n'était pas derrière nous, c'est ce que semble penser Bill Gates. Dimanche, il a donné une interview au Financial Times pour alerter sur le risque d'un nouveau variant encore plus transmissible et mortel. Et il a ajouté le risque que nous n'ayons pas encore vu le pire est tout de même supérieur à 5%. Vous partagez ces craintes, hein.
Enfin, c'est alors, le 5%,
j'aurais du
étonnant.
Mal à me prononcer dessus. Non, ce que...
Ça veut dire qu'il y a quand même 90%
oui,
qu'on ait vu le pire. Quoi.
Ce que veut dire Bill Gates par là, c'est qu'on ne peut pas complètement écarter l'idée qu'un nouveau variant apparaisse, qui lui serait... Alors, il sera de toute façon capable d'échappement immunitaire, sinon on ne le verra pas, hein, puisqu'il devra contourner l'immunité qu'on a tous acquis pour apparaître. Donc ça, on sait que ce sera un acquis si on voit ce nouveau variant, mais qui serait aussi plus sévère. Et Omicron, c'est vrai, on a eu cette chance, entre guillemets, qu'il soit moins sévère que ses prédécesseurs et donc son impact a été moindre. Mais la sévérité du variant est complètement décorrélée du fait qu'il est capable à échapper ou non à l'immunité. Donc, si le prochain variant qu'on aura qui a échappé à notre immunité sera éventuellement plus sévère, c'est à ça que fait référence Bill Gates, on peut avoir la bonne surprise qu'il sera moins sévère ou de sévérité équivalente à ce qu'on connaît. Et là, en revanche, il faut comprendre que les mécanismes d'émergence des variants, ils sont toujours présents et on aura des nouveaux variants dans les mois qui viennent. Mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a accumulé quand même différentes couches d'immunité, que ce soit les infections naturelles ou les vaccins, qui nous protègent contre les formes graves. Et j'ai bon espoir que le plus dur soit derrière nous et... Alors, je n'irai pas quantifier en revanche le risque d'une forme plus grave comme Bill Gates.
Merci beaucoup Arnaud Fontanet. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité, notamment l'inflation qui est bien là. Depuis quelques mois, les hausses de prix dans les grandes surfaces étaient limitées à quelques produits de premier prix, mais elles se sont désormais généralisées et les caddies se réduisent.
Oui, et on aura rarement vu autant de ménages partager leurs astuces pour faire les courses, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télévision, parce que remplir le frigo, c'est devenu pour beaucoup de ménages une épreuve. Selon une étude, un Français sur deux se dit à 5 euros près lorsqu'il fait ses courses. Certains le prennent donc comme un défi, faire baisser le montant de son panier d'achat au maximum.
Tout est calculé, prix de départ, bande réduction, promotion.
Au centime près.
Au centime près.
Avec carrément un petit classeur.
Exactement.
J'ai une pochette avec plein de bons de réduction.
Au total, ça va vous revenir à combien, vous pensez ?
Pas plus de 20 euros.
Pour le plein de courses qu'on a vu.
Exactement.
J'aurais dû payer 37,17 euros
et j'ai payé au total 26,57 €.
Résultat, son budget course pour 4 personnes est tombé de 600 à 150 € par mois.
Grâce à tous ces bons plans, elle économise jusqu'à 500 € par mois.
Il faut savoir changer ses habitudes, changer ses produits et pas se dire « je mangerai tout le temps telle marque de yaourt ».
Changer ses habitudes, c'est ce que les consommateurs font, car la hausse est spectaculaire. Peu de produits y échappent. 95% des produits ont vu leur prix augmenter, une hausse de 3% en moyenne en avril. Parfois beaucoup plus, plus 15% pour des pâtes, plus 11% pour la viande, plus 10% pour l'huile. Alors certains font des priorités. 53% des ménages les plus modestes sacrifient par exemple les produits d'hygiène. D'autres se privent des marques ou d'autres produits.
Viande, moins de poisson, oui. Voilà, on fait attention.
On mange des légumes tous les jours chez nous. Ils deviennent affreusement chers, donc on se rattrape sur les surgelés.
Avant, je prenais plus de la marque, ouais. Maintenant, moins. Parce qu'il faut mettre du carburant dans la voiture, et en ce moment, c'est pas facile.
Bonsoir Dominique Schelcher.
Bonsoir.
PDG de Système U, à vos côtés Éric Ayer, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques et membre du Haut Conseil des finances publiques. Merci à tous les deux de votre présence ce soir. Dominique Schelcher, vous le constatez, les clients se restreignent, les caddies se vident dans vos supermarchés ?
Je confirme ce qui vient d'être dit. Les arbitrages ont commencé. Il y a plusieurs phénomènes. Il y a effectivement l'exemple de l'hygiène, mais il y a aussi celui de la viande et du poisson. La viande, le poisson, les fruits et légumes sont les produits parmi les plus chers dans le panier. Et donc, on en achète un peu moins souvent. Et quand on les achète un peu meilleurs. C'est particulièrement le cas de la viande. Il y a le phénomène après, effectivement, et je pense que ça va être un refuge dans les temps qui viennent, de la marque distributeur. Chez nous, la marque U, ça devient un réflexe. Pourquoi ? Parce que la marque nationale, elle est là, la marque distributeur est là, le premier prix est là. Et donc, les gens, c'est un bon rapport qualité-prix actuellement. Donc, ces ventes-là progressent.
La hausse est beaucoup plus forte sur les pâtes, les viandes surgelées, la farine, les huiles, le café, parce que ce sont des produits qu'on achète en temps de crise en particulier. Et c'est la demande est plus forte. Et du coup, l'offre ça est plus élevée.
Ça n'est de loin pas que ça. Le premier phénomène dans tout ça l'année dernière, c'était la reprise économique des goulets d'étranglement et dans le monde agricole, des productions qui ont été mauvaises à cause du climat. C'était le cas du blé. Les pâtes ont augmenté dès l'automne l'année dernière à cause de mauvaises productions de blé. Donc ça, c'était le premier phénomène. Deuxième phénomène important, les négociations commerciales, les fameuses, qui ont été faites cette année sous couvert de la loi Egalim 2 pour défendre le revenu des agriculteurs, qui était très important. Nous, on défend ça chez U depuis longtemps. Et donc, ça s'est traduit par un meilleur revenu dans les cours de la ferme, mais au prix de l'inflation qu'on a actuellement. Et l'inflation, post-guerre en Ukraine, elle est devant nous. C'est ce que nous discutons actuellement. C'est pour ça que je dis, moi, qu'on n'est qu'à mi-chemin, mais
Vous craignez qu'elle atteigne les 10%, cette inflation.
Alors, j'ai dit exactement...
Elle est à 4,8% sur
4,8% la semaine dernière.
Avril,
qu'on monte, vu les tendances que j'observe, à 7, peut-être 8. Moi, je m'interroge. Parce qu'avec une toile de fond, celle de l'énergie, produire dans l'agroalimentaire, ça se fait à l'électricité, ça se fait beaucoup au gaz. Aujourd'hui, il faut le savoir, je discutais ce matin avec un agriculteur qui m'expliquait qu'aujourd'hui, les coûts de production sont tels que, par exemple, des producteurs de volailles se posent la question d'arrêter la production de volailles parce qu'il faut chauffer l'endroit. Et ils se disent, je vais plutôt faire des céréales qui vont me rapporter davantage. Et donc,
qui sont moins coûteuses en énergie.
Moins coûteuses en énergie. Donc voilà, il y a énormément de questions autour de tout ça.
Éric Ayer, 10% d'inflation selon Dominique Schelcher.
Non, mais
pourquoi pas ? Je crois que c'est les Pays-Bas qui sont à 11%, l'Espagne est à 10%, l'Allemagne est à 8%, enfin en moyenne en zone euro est à 7,5%. Donc vous voyez, on fait un peu figure d'exception. Alors, à la fois parce que globalement, on a un mix énergétique qui nous protège un peu plus que certains pays et parce qu'on a bloqué les prix. Donc si on n'avait pas fait tout cela, on serait aussi vers les 7. Donc pourquoi pas 7% aujourd'hui? Et après, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer demain s'il y a un embargo sur le gaz, un embargo sur le pétrole qui vient? Bon, il est possible que les prix du baril montent jusqu'à, pourquoi pas, 150-200 $ le baril. Vous voyez, ça ne serait pas non plus très étonnant. En 2007, le baril était à 140 $. Vous voyez, si on fait un énorme embargo sur le pétrole russe, on peut monter à 200 et donc, bien sûr, des effets d'entraînement.
Et la Commission européenne vient de suggérer fortement un embargo sur le pétrole russe. Donc, on est exactement dans le schéma que vous décrivez.
Oui. Oui, alors maintenant, il va falloir qu'on trouve des une substitution à ce pétrole russe. Alors, c'est plus facile avec le pétrole qu'avec le gaz, d'accord ? Parce qu'on peut aller avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes, le Venezuela, l'Iran. Mais vous voyez, c'est des partenaires qui sont un peu bizarroïdes aussi. Hein, c'est-à-dire, on tombe un peu de caribansilla pour certains. Et vous voyez, ils sont quand même dans l'OPEP+, avec les Russes. Donc, est-ce qu'ils vont trahir leurs partenaires ? Donc, c'est assez compliqué. Donc, c'est pour ça qu'un pétrole à 200, pourquoi pas. Et alors ensuite, l'autre conséquence, c'est qu'aujourd'hui, les prix de production ont augmenté de 25%. Donc la question, c'est est-ce que les entreprises peuvent durer avec des prix de production aussi élevés sans les répercuter dans leurs prix ? Bon, voilà, donc c'est les marges qui vont prendre un coup, mais il est possible que petit à petit, elles répercutent tout cela dans les prix. Et après, se pose la question des salaires.
Et puis, on va aussi peut-être devoir réviser à la hausse le bouclier tarifaire.
Alors, c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire, soit vous dites, bon, on n'a plus les moyens, il n'y a plus de quoi qu'il en coûte, d'accord ? Donc, au bout d'un moment, soit on considère que c'est aux salariés consommateurs à absorber tout le choc, donc un énorme choc de pouvoir d'achat, la consommation qui s'effondre, et donc, du coup, un peu de chômage en plus, ou alors on dit, non, il y aura des salaires qui vont progresser au même rythme pour soutenir. Mais là, c'est les entreprises qui vont absorber tout le choc. Bon, est-ce qu'elles sont capables d'absorber tout le choc ? Ça, c'est une deuxième question. Et surtout, si elles doivent le faire, il y aura des conséquences sur l'intégralité des prix. Aujourd'hui, l'inflation, elle est quand même alimentaire et énergétique. Si c'est les salaires qui augmentent, l'inflation sera partout. Et là, les banques centrales changent de régime. C'est-à-dire que les banques centrales, si elles commencent à voir que l'inflation est partout, elles réaugmentent très vite les taux d'intérêt. Et si elles augmentent très vite les taux d'intérêt, ça provoque une récession.
C'est ce que la Fed...
Alors, la Fed est en train de le faire, ouais. Effectivement. Et la Banque centrale européenne...
C'est la fin de l'argent gratuit aux États-Unis,
mais vous voyez... Elle augmente, on pense qu'elle sera aux alentours de 1% cette année de taux d'intérêt, alors que l'inflation est à 8%. Donc, vous voyez, elles sont même très loin, parce que ce n'est pas encore généralisé. Et donc, les gouvernements ne veulent pas de ce schéma-là, parce que ça s'appelle la stagflation. Ce n'est pas un joli mot, mais c'est assez redoutable. Et donc, ils se disent, bon, plutôt que de tout faire porter sur les entreprises, je vais faire des boucliers tarifaires, je vais faire des chèques loyers, des chèques logements, des chèques alimentaires, des chèques énergétiques. Mmh. Mais alors là, c'est les finances publiques qui prennent. Et là, il va falloir négocier avec nos partenaires européens la possibilité de faire du déficit. Ce qui tombe bien, c'est que l'Allemagne est encore plus impactée
donc,
que nous.
Elle va pas
et
trop
donc, sans
renichigner.
Doute, sera un peu plus souple pour pouvoir déroger à la règle budgétaire.
Le bouclier tarifaire, ça existe aussi chez Système U. Michel-Édouard Leclerc, lui, il a mis en place dès aujourd'hui son bouclier anti-inflation sur 120 produits du quotidien.
Nous, notre axe, il est sur notre marque, la marque U. On a 6000 produits, il y en a 100 qui sont particulièrement bataillés. On va faire tous nos efforts là-dessus parce que c'est le bon rapport qualité-prix. À ce qui vient d'être dit, je voudrais juste répondre, les entreprises ne pourront pas absorber le choc et devront le répercuter. Donc c'est pour ça que moi, je pense qu'on n'est pas au bout de cette inflation, que probablement qu'elle va durer cette année et sans doute l'année dernière, sauf si, à un moment... l'inflation est telle qu'elle ralentit l'économie et que peut-être faudra se poser d'autres questions.
Mais oui, mais la consommation s'est effondrée au premier trimestre.
Alors, elle a baissé.
Elle a baissé, oui, effondrée.
C'est vraiment les ménages qui ont baissé. C'est à la fois la consommation et l'investissement des ménages. Alors, heureusement, ça a été compensé par l'investissement des entreprises et donc on sort avec une activité qui était stable au cours du premier trimestre. Mais effectivement, on était... qu'au début de la hausse des prix, au premier trimestre. Et donc, effectivement, le pire est devant nous de ce point de vue-là.
Alors, vous parliez des chèques pendant sa campagne. Le candidat Macron avait promis des chèques alimentation pour les ménages les plus modestes. Louis Amar, notre reporter, a demandé au porte-parole du gouvernement aujourd'hui où en était ce dossier.
Effectivement, vous l'avez rappelé, c'est un engagement important et fort du candidat Emmanuel Macron dans le cadre de sa campagne pour permettre à nos concitoyens, évidemment nos concitoyens les plus modestes, de pouvoir... s'alimenter avec des produits de qualité locaux, ce qui a évidemment un coût et donc une aide financière pour y parvenir. Et il y a, je le disais tout à l'heure, un certain nombre de travaux qui sont engagés dès à présent par ce gouvernement sur les différents engagements du président de la République. Cet engagement-là en fait partie, mais je ne peux pas aujourd'hui vous donner davantage de détails, si ce n'est vous dire que c'est évidemment un sujet qui est travaillé dès à présent.
Ni de calendrier donc ?
Ni de calendrier.
Alors, on n'a pas trop de détails, mais ces chèques, quand il dit destinés aux Français les plus modestes pour bien se nourrir avec des productions locales, françaises, a priori, ça ne serait pas donc des produits qu'on trouve en grande distribution. Si c'était le cas, ça, vous le regretteriez ?
Moi, je suis favorable à l'esprit de ce chèque. Je pense qu'il est nécessaire. Je pense qu'il faut arrêter un moment le quoi qu'il en coûte pour tout le monde et qu'il faut faire des aides ciblées aux gens qui en ont le plus besoin. Par contre, je pense que ce serait une erreur de le réserver qu'au circuit court. Il faut le faire, mais il faut rendre les choses accessibles facilement aux gens qui en auront besoin. C'est-à-dire il faut le rendre accessible à la grande distribution. Vous savez, actuellement, à la campagne où je vais souvent, où je suis, les gens, le premier problème, c'est la voiture, c'est le carburant. Donc, ils n'ont pas envie de se déplacer à plein d'endroits différents. Ils veulent tout faire sous le même toit. Donc, oui, un chèque pour les plus démunis, accessible facilement et partout. Je crois que c'est ça la bonne optique. Et je pense, pour compléter, ma conviction, c'est que l'aide actuelle de 18 centimes sur le carburant n'est pas suffisante. Je pense qu'il faut aller plus loin, et notamment pour les gros rouleurs. Quand vous habitez à la campagne, plus vous éloignez de la ville, plus la voiture vous coûte cher, finalement. Et il y a des gens qui n'y arrivent plus.
Donc
et ça ne suffit pas.
Pour faire quoi, Dominique Schellcher ?
Une aide pour les grands rouleurs. Bruno Le Maire en parlait l'autre jour. C'est une piste de réflexion. Je pense qu'il faut le faire, parce que dans un foyer, vous avez des enfants, il faut les conduire au sport, il faut les conduire au collège, etc. Ça coûte trop cher aujourd'hui.
Patrick ?
Oui, non, pour compléter le calendrier des chèques, des futurs chèques, il dépend du calendrier électoral, puisqu'il faut une loi. Il y a une loi qui est en préparation, et ça a été indiqué par les services de Bruno Le Maire ou par le ministre lui-même. Donc ce serait au plus tôt fin juin, début juillet, pour avoir un ensemble de mesures d'aide ciblées qui ont effectivement été promises par le candidat Macron. C'est ce que vous avez compris, Éric, hier.
Oui, enfin, moi, j'ai pas mieux compris que vous. Mais globalement, peut-être que c'est effectivement, il y a une urgence aujourd'hui à le faire. Ouais. Et on voit bien qu'aujourd'hui, toutes les indexations sont nécessaires sur les minima sociaux ou sur le SMIC, mais elles arrivent avec du retard. Et donc, comment fait-on pour passer ces périodes-là? Vous voyez, on peut vous dire, on va augmenter demain, mais c'est...
Donc, c'est une bonne solution, c'est chèque pour tout, chèque énergie, chèque inflation, chèque alimentation?
Je pense qu'on est en train de chercher la moins mauvaise des solutions. C'est-à-dire que bien sûr qu'on aimerait ne pas devoir faire cela, mais aujourd'hui, ça touche des biens de première nécessité. Et donc, du coup, on est un peu obligé, dans l'urgence, et compte tenu de la très forte augmentation, de faire des aides. Alors, il faut que ça soit extrêmement ciblé, mais vous voyez, je ne suis pas sûr que les déciles de revenus, enfin, uniquement le faire en fonction du revenu, ça ne marche pas, parce que ça a bien été dit. C'est-à-dire qu'on est en milieu rural ou urbain, ce n'est pas la même histoire. Et donc, ce n'est pas qu'une question de est-ce que je gagne beaucoup d'argent ou pas, c'est est-ce que j'ai une alternative à mon transport ou pas, est-ce que je peux effectivement troquer ou pas un certain nombre de marchandises. Donc c'est extrêmement compliqué, mais il ne faut pas non plus tomber dans le quoi qu'il en coûte. Donc je dis, c'est pas simple.
Cibler les gros rouleurs, c'est très compliqué, c'est une sorte d'usine à gaz administrative. Ça a été fait dans une région, dans la région Hauts-de-France. On a parfaitement les résultats. Il y avait des critères de distance entre le domicile et le travail qui ont été établis, qui ont été agrandis en cours de route. Mais ça a été assez compliqué administrativement à mettre en place pour bien cibler les gens qui sont les bénéficiaires.
C'est tout à fait juste. Quand tous ces plans étaient mis en place il y a quelques mois, à l'époque, ils n'arrivaient pas à le faire. Maintenant, le ministère de l'Économie dit on a réussi à croiser un certain nombre de fichiers pour cibler les personnes. Et ils seraient prêts à le faire. Maintenant, ça, on va suivre dans les décisions qui vont venir.
Il y a des outils, en tout cas.
En tout cas, il y a des outils. Il y a des outils.
On peut espérer que ça aille mieux bientôt ou pas?
Oui, non, mais attendez, il ne faut pas complètement non plus désespérer. C'est-à-dire que, on peut juste rappeler quand même une chose, c'est que pendant la période Covid, un grand nombre de, on a maintenu le revenu d'un grand nombre de salariés et on les a empêchés d'aller consommer, d'accord? Et donc, il y a une surépargne qui s'est accumulée. C'est-à-dire, par rapport à l'épargne normale, il y a 170 milliards de surépargne. Bon, on peut penser que cette surépargne, qui était quand même de l'argent public, qu'on a plus ou moins garanti à des personnes...
peut absorber une partie de cette inflation.
C'est-à-dire que les salariés un peu aisés peuvent aller un tout petit peu puiser dans cette surépargne pour répondre à ces besoins-là. Et on voit bien que du coup, c'est ciblé en gros sur 20% des Français qui ont dû désépargner pendant la crise parce qu'eux, on ne leur a pas maintenu leurs revenus parce qu'ils étaient en CDD et donc ils n'ont pas eu l'activité partielle et qui ont effectivement des difficultés soit dans le transport. Donc en fait, c'est extrêmement ciblé. Et les autres, on peut potentiellement un peu moins les aider pendant un temps. Et après, si ça dure, là, on pourra commencer à indexer. Donc il faut penser à cette surépargne.
Le mot de la fin, Dominique Schellcher.
On a toujours fait preuve de créativité depuis le début de cette crise et on a trouvé des solutions. Et cette fois encore, on va le faire. On va trouver des nouvelles recettes dans les produits où il manque de l'huile de tournesol actuellement. Et il faut trouver des solutions moins chères tout en préservant la qualité des produits. Donc moi, je crois en cette capacité de créativité, de mobilisation des entreprises. Et on va accompagner les Français, bien sûr.
Et il faut faire aussi la chasse au gaspillage. Peut-être que c'est la bonne occasion pour arrêter de prendre souvent sa voiture, etc. Ça va être la seule solution pour sortir du pétrole et du gaz russe.
Merci beaucoup, Éric. Eric Ayer et Dominique Schelcher de Système U. Le bonheur est dans le pré. Le commerce au cœur du vivre ensemble est paru aux éditions de l'Archipel. C'est signé Dominique Schelcher, on le signale. Voilà, le bonheur est dans le pré. Et sur le plateau de C'est à vous, vous restez avec nous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouazizi. Monsieur Schelcher, décalez-vous. On a entendu un ordre pas commun. S'il vous plaît, monsieur Schelcher, si vous voulez bien laisser votre place à Mohamed Bouefsi, qui donne ce soir un conseil aux voyageurs.
Oui, si vous comptez partir en vacances à l'étranger cet été, sortez votre portefeuille et regardez la date d'expiration de votre carte d'identité ou de votre passeport pour éviter des mauvaises surprises. Les délais pour avoir un rendez-vous en mairie ont explosé, passant de 12 jours il y a un an à 65 jours. Aujourd'hui, ça représente quand même 3 mois en jour ouvré, de quoi légèrement exaspérer les Français.
J'avais pris un rendez-vous à ma mairie, il fallait attendre 2 mois pour avoir un rendez-vous, sachant que pour faire les papiers, carte d'identité, il faut attendre encore 6 semaines derrière.
Bah, pour refaire les papiers pour le rendez-vous, le problème c'est que j'ai attendu un mois et demi. Quoi.
On sentait une espèce de pression ambiante dans les bureaux là où ça a l'air ni simple de leur côté, ni simple pour les personnes qui sont en attente de papier. Donc effectivement, ouais, on sent, c'est assez palpable, ouais, l'atmosphère est plutôt délétère.
Je comprends pas parce qu'avant c'était 15 jours, 3 semaines pour faire sa pièce d'identité.
Vous avez pris rendez-vous ce matin pour rendez-vous cet après-midi? Comment vous avez fait?
Il faut se connecter à 11h02 et toutes les mairies remettent des nouveaux rendez-vous pour l'après-midi même.
Ah oui, il y a des petits malins. Quoi.
C'est ça. Ces Français rencontrés, c'était sur le parvis d'une mairie de Paris.
Mairie du 15e arrondissement.
La mairie du 15e arrondissement. Un chiffre à Paris, en janvier, plus de 40 000 demandeurs pour 5 000 petits rendez-vous seulement. Partout en France, la raison de l'allongement du délai de rendez-vous est très simple. Après la pandémie du Covid en 2020 jusqu'au premier semestre en 2021, près d'un million de Français se sont empressés de faire des demandes de nouveaux titres de voyage. La nouvelle carte d'identité nationale que vous découvrez à l'écran a aussi entraîné une forte demande. Par ailleurs, les Français n'ont pas toujours été très consciencieux. Les préfectures et mairies ont souvent recommandé aux usagers de recourir à une pré-demande en ligne, ce qui permet de diminuer la durée des rendez-vous et de se présenter en mairie avec un dossier complet. Plusieurs édiles de France se sont vus dépassés par cette explosion de rendez-vous.
Il y a un vrai embouteillage en matière de demande de carte nationale d'identité et de passeport, pour deux raisons. La première, c'est que les gens se sont aperçus après le confinement que leur passeport était périmé. Donc, cette demande s'est additionnée à celle habituelle chaque année de demande de renouvellement. Et puis, en plus, il y a le succès de la petite carte nationale d'identité qui fait que les gens veulent aussi renouveler leurs papiers. Donc, nous demandons bien évidemment à l'État de pouvoir nous donner d'autres dispositifs de recueil qui permettent justement d'enregistrer l'ensemble de ces demandes. C'est très important parce que nous arrivons dans une période estivale où de plus en plus de gens vont demander des pièces d'identité pour voyager.
Et certains Parisiens se sont cru malins en allant jusqu'à La Baule, là où est la mairie de Franck-l'Ouvrier, pour essayer d'avoir leur pièce d'identité un peu plus rapidement. Et ça n'a pas du tout été le cas, ce qui a gêné les habitants de La Baule. En tout cas, face à cette situation, 160 agents ont été recrutés depuis le début de l'année, soit une hausse de 30% des effectifs. Pour la première fois, les étudiants pourront présenter aux examens de fin d'année des titres d'identité expirés depuis au moins 5 ans. Même possibilité pour l'inscription au permis de conduire dans les auto-écoles. Le gouvernement a donc décidé de réagir.
Disposer d'une carte d'identité ou d'un passeport est essentiel pour les Français et nous ne pouvons évidemment pas laisser perdurer cette situation plus longtemps. C'est pourquoi nous avons lancé un plan d'urgence. 400 nouveaux dispositifs de recueil des demandes de titres pourront être installés dans un délai d'un mois, soit près de 50 000 demandes supplémentaires qui pourront être recueillies chaque semaine. Nous allons faire en sorte aussi de prioriser les demandes les plus urgentes, notamment professionnelles. Pour y parvenir, nous demandons à chacun de pouvoir effectuer une pré-demande en ligne qui permet d'accélérer considérablement le travail des agents en mairie.
Alors, il y a une petite bonne nouvelle dans tout ça, et on va poser la question à Eric Ayer. J'ai pu échanger cet après-midi avec plusieurs maires, notamment de cité balnéaire. La petite bonne nouvelle, comme me l'expliquait un édile, c'est que ces centaines de milliers de Français ne pourront donc pas aller à l'étranger,
ah bah tiens,
puisqu'ils n'auront pas de carte d'identité et de passeport, et qu'ils vont rester en France et faire profiter.
Et aller chez Super U aussi.
Ils peuvent voyager en Europe.
Oui, dans la zone Schengen, c'est vrai.
Ils peuvent voyager en Europe, il y a une tolérance sur l'expiration des pièces d'identité sur l'Europe. Hein. Je sais pas.
Oui, mais alors du coup, alors, le seul bénéficiaire, c'est la transition écologique. C'est-à-dire que s'ils font des voyages un peu plus courts, ils consommeront moins de pétrole, donc ça sera très bien. Non, bien sûr, à quelque chose, malheur est bon, mais il faut quand même souhaiter à ces Français d'arriver très vite à avoir cette pièce d'identité. Mais oui, si ça peut donner un petit coup de pouce au secteur de l'hébergement et la restauration. Parce que vous voyez, quand on dit que l'activité est revenue au niveau d'avant-crise, ce n'est pas vrai dans le secteur de l'hébergement, qui est encore à 20% en dessous de son niveau d'avant-crise. Bon, allez, mais j'espère que c'est pas pour cette raison-là qu'on a rallongé la durée d'obtention de ce permis.
Merci beaucoup, Mohamed. Et on constate quand même l'inflation de la parole de Gabriel Attal dans cette émission, qui est à plus 50% au moins. Gabriel Attal, spécial ce soir dans C'est à vous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Je vous préviens d'avance, j'ai du Gabriel Attal.
Ah, mais jamais 203.
Saurez-vous le retrouver dans le 5 sur 5 ?
Tous les autres ministres font leur carton. Donc...
C'est pas... On va d'abord à Marseille, où des locataires d'une résidence ont été forcés de quitter leur logement.
Oui, c'est ubuesque. Poussés hors de chez eux par des squatteurs, nous sommes dans le 15e arrondissement de Marseille, dans les quartiers nord, cité Caliste. Ils sont une soixantaine à avoir choisi de ne plus rentrer chez eux après un week-end de tension et de violence sur place. Ce n'est pas la première fois. Selon RTL, des squatteurs ont pris possession des immeubles sur place et de certains logements inoccupés dans un premier temps. Des sans-papiers nigérians, pour la plupart, en gang, qui s'affronteraient sur fond de prostitution et de trafic de stupéfiants. Des affrontements à la machette, en pleine ville, parfois, des coups de feu aussi, et des habitants qui voient leur logement littéralement saisi par ces délinquants.
Il y a deux groupes de Nigériens, en fait, ils étaient en train de se battre entre eux. Ils essayaient de rentrer chez nous. Et du coup, en fait, comme les petites, elles n'ont pas ouvert la porte, elles ont eu peur. Les petites tétanisées, ils se sont tous réfugiés dans la chambre, on est choqués.
Nous sommes chez un habitant, vous voyez. Des balles tirées depuis l'extérieur. Je vous montre. Depuis là-bas.
Ils sont malheureusement beaucoup impliqués dans les trafics de stupéfiants, veulent vivre dans le quartier où ils travaillent pour pouvoir y être quotidiennement, pour pouvoir travailler plus longtemps. Et donc du coup, ils forcent certains habitants à quitter les immeubles.
Imaginez rentrer chez vous dans ce contexte et découvrir votre appartement dans cet état, incendié. En l'occurrence, les squatteurs y ont mis feu en partant. La police intervient ponctuellement mais semble démunie face au phénomène.
On ne peut pas le déloger uniquement avec la présence policière. C'est une réponse du coup juridique. Et alors là, déposition de plainte, on appelle les huissiers, c'est coûteux, c'est long, et on tourne en rond et on perd du temps. Vous savez, on a quand même le sentiment que tout le monde se renvoie un petit peu la balle, on perd du temps, et les premières victimes, au-delà des guerres liées sur fond de stupéfiants, les premières victimes sont les locataires qui sont délogés, qui se retrouvent dans un gymnase.
Des familles ont été relogées temporairement. Certaines familles ont passé plusieurs nuits dans un gymnase. La préfecture parle de 42 appartements squattés.
Mais que fait Gabriel Attal ?
Ça vient plus tard.
Ah bon ?
D'abord, c'est Emmanuel Macron qui diffuse une nouvelle série.
C'est possible en 2022. On préside, mais on est aussi dans des séries que l'on produit soi-même, à l'image des extraits de la série Le Candidat, diffusé en ligne pour la campagne d'Emmanuel Macron. Et puis ce matin, sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être découvert ces autres images d'Emmanuel Macron qui a du mal à ouvrir une fenêtre, une bande-annonce, 5 ans à l'Élysée, série bilan du président. Le premier épisode a été mis en ligne il y a quelques instants, à 18h, et il se consacre, c'est bien naturel, au début du mandat. Tiens, écoutez les premiers échanges d'Emmanuel Macron avec les dirigeants européens.
Oui, allô ?
Monsieur le Président ?
Oui.
Oui, c'est l'antenne spéciale, je vous mets en relation avec les différents interlocuteurs.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. And of course, we are all very happy to have Emmanuel for the first time in this very special conversation. Конечно же, мы рады Emmanuel, который впервые участвует в таком очень важном разговоре.
Thank you.
Un deuxième extrait à présent, lors duquel on revient sur le mouvement des Gilets jaunes.
En tout cas, dès que les conditions de sécurité le permettront, on rouvrira pour le principe.
C'était au lendemain ou le jour même du saccage de l'Arc de Triomphe en décembre.
Alors le premier épisode, c'est 2017-2018. D'autres épisodes à venir donc pour ceux qui voudraient revivre les 5 ans du premier mandat du président. il y a un peu plus d'une demi-heure.
Et la porte qui s'ouvre pas, on ne sait pas encore à quel épisode ça correspond.
Pour être très honnête avec vous, être complètement transparent, c'est à Biarritz, hein, on le sait, mais je n'ai pas encore vu tout l'épisode, puisqu'il a été mis en ligne à 18h. Je dirai demain. En attendant la conclusion de ce premier quinquennat, nous sommes mercredi et c'était jour de Conseil des ministres. Depuis l'entre-deux-tours, avec Malice, notre très cher camarade Bertrand Chamerois s'était amusé avec nos reporters en quête du dernier Conseil des ministres.
Ça va vous manquer le Conseil des ministres ? C'est pas fini ? Monsieur Blanquer, monsieur Djebari, ça va vous manquer le Conseil des ministres ? C'est pas terminé ? Vous avez pas encore fait vos cartons alors ?
Avec la cérémonie d'investiture ce week-end, l'attente d'un nouveau gouvernement, c'était forcément aujourd'hui, non, le dernier Conseil des ministres. Eh bien, pour la troisième fois, Louis Amar et Audrey Payas ont tenté leur chance dans la cour de l'Élysée ce matin.
Est-ce que c'était le dernier aujourd'hui ? Vous savez pas ? Vous savez pas ? Vous serez là la semaine prochaine, monsieur Dupond-Moretti ? Est-ce que c'était le dernier aujourd'hui ? Est-ce que c'était le dernier aujourd'hui ? Est-ce que c'était votre dernier conseil ? On vous revoit la semaine prochaine ?
Il y a le premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui s'achève le 13 mai à minuit. Et ce que je peux vous dire, ce que je sais, c'est que le gouvernement Castex ira au bout de ce premier quinquennat d'Emmanuel Macron.
Ah !
Encore raté. On fait quoi, Babette ? On les renvoie mercredi ?
Ah oui, on y retourne.
Ah oui.
Mercredi prochain, on sera le 11. Donc
ce sera le dernier.
C'est le dernier des ministres.
Normalement, c'est
ce sera le dernier mercredi prochain.
Peut-être.
On renvoie Louis Amar.
Mes frères qui sont à côté de Louis Amar pendant ces séances. Alors, en revanche, pour vous montrer qu'on n'est pas complètement dans le faux non plus, il y en a un qui a déjà lâché le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari, sur TikTok. Voilà. Quand ça fait 10 jours qu'on attend un nouveau gouvernement, écrit-il avec des cartons autour de lui dans son bureau. J'ajoute la légende du poste TikTok. Si ça continue, Rihanna va sortir son album.
Ah ben ça, c'est réussi. Pendant ce temps, ce sont bien sûr les législatives qui se préparent.
Avec le Parti Socialiste qui rejoint Europe Écologie Les Verts et le Parti Communiste dans un accord avec la France Insoumise. Un accord attendu, un accord conclu tard dans la nuit, tôt ce matin. Pourtant, des figures du Parti Socialiste menacent de quitter le parti, si ce n'est fait. Déjà pour Bernard Cazeneuve, on l'a appris juste avant le début de l'émission, si un tel accord était ratifié. François Hollande, Jean-Christophe Cambadélis, Stéphane Le Foll, Claude Bartolone, alors Iban Raïs et Anaïs Recoulis. Autant du micro, c'est à vous, aux insoumis qui répondent aux éléphants du PS.
J'observe que dans leur sortie médiatique, ils parlent beaucoup d'eux. Moi, je les entends beaucoup parler d'eux. Et finalement, assez peu de ces millions de Français qui attendent un changement profond.
Tous ceux qui ont été, à mon avis, les fossoyeurs du Parti Socialiste, quelque part, ces gens-là ne soient pas avec nous, c'est plutôt une satisfaction.
Je les entends beaucoup parler d'eux-mêmes et de leur nombril, et pas beaucoup de ce que nous avons à faire pour le pays et pour ces millions de Français qui ont confiance en nous.
Les perdants essayent de faire du bruit.
Je disais, le PS rejoint les Verts et les communistes, quoique lorsqu'on entend celui qui était candidat du Parti communiste français à la présidentielle ce matin, on se dit que cette nouvelle union, c'est pas forcément gagné.
Comment vous le qualifiez cet accord ?
C'est un accord important. L'enjeu, c'est pas que demain, il y ait un seul groupe à l'Assemblée nationale chapeauté par le programme de la France insoumise et par Jean-Luc Mélenchon. On veut pas dire que nos désaccords n'existeront plus.
S'il était Premier ministre, il fermerait des réacteurs nucléaires. Vous soutiendrez ça ? Vous serez dans le même gouvernement ?
Et nous ne serons pas d'accord sur cette question-là. Nous ne gagnerons pas si demain, il y a un parti unique, chapeauté par Jean-Luc Mélenchon, dans le cadre d'un nouveau gouvernement. Et ils continueront d'exister, ces désaccords.
Qui est aujourd'hui le leader de cette union ?
C'est les Français. Ceux qui vont voter pour nous. Mélenchon. C'est les 11 millions de Français.
Patrick, un commentaire ?
Non, juste la première partie du propos de Fabien Roussel. L'enjeu, c'est d'avoir un groupe communiste qui ne soit pas sous la coupe de la France insoumise. Il parle comme un futur leader, l'un des responsables de l'opposition, et pas comme l'un des futurs dirigeants de la majorité. Enfin, dans son esprit, très clairement...
Il ne croit pas à l'hypothèse d'une victoire.
Le Parti communiste espère avoir 15 députés pour faire un groupe. Ça ne fait pas une majorité, sauf raz-de-marée insoumis.
Enfin, législatif toujours, on découvre des noms de candidats ces derniers jours et nous apprenons que l'ancien Premier ministre Manuel Valls sera candidat à La République En Marche dans la circonscription des Français d'Espagne, du Portugal, d'Andorre et de Monaco. Pourtant, 4 ans après avoir quitté son mandat de député de l'Essonne, après son échec au municipal à Barcelone, ce retour ne semblait pas si évident.
Seriez-vous candidat au nom de la majorité présidentielle si elle est reconduite ?
J'ai déjà eu l'occasion de répondre.
Si le président est reconduit.
Je ne crois pas
Je ne crois pas, parce que j'ai déjà été député pendant des années. Je ne veux pas être candidat, par exemple, dans la première circonscription de l'Essonne. J'en ai été le député.
Une campagne qui démarre déjà bizarrement pour Manuel Valls. Le sortant n'a pas prévu de céder son siège sans se battre. J'ai la ferme intention d'être candidat à ma propre succession et j'attends donc en confiance la décision d'investiture. À suivre, le premier tour des élections législatives, c'est dans moins de 40 jours.
Oui, c'est pas la fin du feuilleton. On quitte la politique française pour le terrain ukrainien.
Où restent de grandes incertitudes ce soir sur la situation sur le site industriel d'Azovstal. C'est à Mariupol, je vous le rappelle. Le maire dit avoir perdu le contact avec les derniers combattants. De violents combats, justement, rapportés aujourd'hui encore. On parle même de corps à corps. C'est la dernière poche de résistance à Mariupol, ville déjà détruite depuis plusieurs semaines. La semaine avait débuté avec des évacuations de civils cachées dans les sous-sols de l'usine.
We lived in hope that every day would be the last day in this hell, that we would go home to a peaceful Mariupol. But now it is non-existent.
How we were living, to be honest, it was horrible. From morning until night, we were bombarded. Artillery, rockets, airstrikes. Our children couldn't sleep. They were crying. They were scared.
Dans le même temps, d'autres frappent dans plusieurs régions de l'Ukraine, au centre, au sud, à Odessa, près de la frontière hongroise aussi, des frappes qui ont causé des morts civiles la nuit dernière. Et puis à Lviv aussi, la ville refuge de l'Ouest, par où transitent les réfugiés. Une partie de la ville est sans électricité après des frappes sur 3 centrales électriques.
On s'intéresse aussi à ce qui se passe du côté russe de la frontière.
Oui, avec d'abord une attente, on l'a beaucoup dit, la date du 9 mai, des répétitions du défilé militaire aujourd'hui à Moscou. Le 9 mai, c'est la fête nationale russe, fête de la victoire. Mais il y a un autre phénomène intéressant en Russie, pas mal de points d'interrogation. On parle d'étranges épidémies d'explosions et d'incendies depuis le début du mois d'avril, sans que personne ne revendique ou ne déplore quoi que ce soit. Des entreprises liées à l'armée, des entreprises aéronautiques, un centre d'entraînement, un pont aussi, et pas uniquement près de la frontière ukrainienne. Regardez cette carte, dans plusieurs endroits de la Russie, et encore une fois, les Russes prennent acte sans détailler. Les Ukrainiens ne revendiquent pas ni des explosions ni ces incendies de voitures du renseignement russe à Moscou. Ce sont des voitures du FSB. On a juste vu apparaître ce compte Twitter parodique qui recense ces événements en Russie. Le nom du compte, c'est Ministère ukrainien des feux russes accidentels.
Beaucoup plus léger pour conclure ce 5 sur 5 ce soir. On part à Bergerac en Dordogne avec une décision du maire qui divise la population.
Polémique dans le sud-ouest, il part en tout cas en guerre contre les déjections canines de sa commune de 27 000 habitants. À l'écran, un tweet du compte de la mairie qui vient d'annoncer une nouvelle amende. Franchement dissuasive, le maire a pris un arrêté instaurant une amende de classe 4 pour non-ramassage de déjections canines, 750 euros.
Le but, ce n'est pas de mettre une amende. Et à aucun moment, c'est de recevoir la recette de cette amende. Être certain que les personnes qui ont des chiens, comme ils ont des dépenses de vétérinaire, comme ils ont des dépenses d'aliments, ils doivent également avoir des dépenses de sacs et de ramassage de ces déjections canines.
Une affiche accompagne cette nouvelle sanction. Une autre amende à noter aussi, 38 euros lorsque vous promenez votre chien et que vous ne disposez pas de 2 sacs pour ramasser avec vous.
Ah oui ?
Les propriétaires, les chiens, les propriétaires de chiens, les administrés, tout le monde est divisé sur place. En creusant, j'ai découvert aussi que Bergerac a réhabilité les motocrottes que nous connaissions à Paris il y a quelques décennies. On prend surtout la mesure de l'enjeu. 12 kilos de crottes sont ramassés chaque jour dans la sous-préfecture de la Dordogne.
Merci pour tous ces chiffres, cher Mathieu. C'était le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Merci Dominique Schellcher, PDG de Système U. Éric Heyer, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Mathieu Béliard, journaliste, c'est à vous. Et Arnaud Fondadet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, membre du Conseil scientifique. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation dans un instant.
Gabriel Attal.
Qui va mixer sur du DJ Snake, qui est notre invité. À tout de suite.